Nous enseignons généralement de façon orale avec la parole, mais il y a des moments où il y a des illustrations. D'ailleurs, le Seigneur donnait des paraboles hein, pour mieux faire comprendre l'Évangile. Et là, la situation, en l'occurrence, de nos frères et sœurs persécutés. En introduction, personnellement, je voudrais surtout dire que, bah, d'accord, nous pensons aux frères persécutés, nous sommes avec eux et nous prions pour eux, mais surtout, nous célébrons avec eux le Seigneur. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il a aujourd'hui réservé pour ce témoignage difficile au sein de ce monde, pour ceux qu'il tient ferme dans la foi alors qu'ils sont non seulement opprimés, mais littéralement exécutés, hein, mis en prison et puis tués pour le Seigneur aujourd'hui même. Le nombre des chrétiens qui meurent chaque année va plutôt en augmentant avec toutes les persécutions qu'il y a dans le monde. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu qui se poursuit dans le monde. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui le veut. Ce sont les témoins, les martyrs du Seigneur. Et par conséquent, nous ne portons pas cela comme un fardeau. C'est la gloire. C'est la gloire de l'Église de préférer honorer le Seigneur au détriment de la vie présente, plutôt que de vouloir garder une vie favorable, un contexte de vie facile. Au détriment de la foi. C'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous devons refuser. Le Seigneur, dès le commencement, a envoyé ses disciples en leur donnant ce commandement. Vous serez, et puis cette réalité, vous serez mes témoins. Et dès le départ, le mot lui-même veut dire martyr. Vous serez mes martyrs. Vous serez ceux qui donnent leur vie et ceux à partir desquels je me glorifie. Le Seigneur peut se glorifier dans notre vie, mais il peut aussi se glorifier dans notre mort. Et il le fait. Il le fait ayant lui-même donné sa vie pour nous. Donc, c'est une première approche lorsque nous abordons cette question de la persécution, ce n'est pas en étant chargé ou même nous-mêmes en étant chargés d'une culpabilité parce que nous ne serions pas capables d'aider nos frères et sœurs. C'est la situation normale du chrétien dans ce monde. Nous sommes privilégiés dans notre société de ne pas souffrir directement, physiquement, de notre témoignage, mais si nous sommes fidèles à la vocation qui nous est adressée, nous avons aussi des souffrances et des difficultés à vivre. Donc voilà, le Seigneur est à l'œuvre dans le monde et le fait qu'il y ait des persécutions est souvent justement le signe que l'Église est bien vivante. En particulier, il est question là hein, de l'Iran. Alors, il y a une vingtaine d'années, eh bien, les ayatollahs ont décidé que l'Iran serait une république islamique. Voilà, c'est la constitution même de ce pays. Eh bien, depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu autant de conversions à Jésus-Christ au sein de cette nation qui est cadenassé par la loi islamique, parce que ben, le Seigneur connaît son peuple et il va le chercher dans tous les contextes. C'est la même chose en Algérie actuellement. Il y a eu des églises qui ont été fermées récemment, mais pourquoi? Parce que justement, elles étaient devenues gênante et trop voyante, hein, alors que le pays, tout en ayant une constitution plus libre, se réclame toujours de la loi islamique. Et ainsi de suite. En Chine, combien de persécutions à nouveau, mais en fait, qui sont la suite du développement de l'Église sous la persécution, il y a maintenant 50 années de cela. L'Église a prospéré en Chine sous le communisme, le maoïsme. Hein, elle avait été préparée par le Seigneur et il y a eu, sous ce régime opprimant qu'est le communisme, installé là, donc de façon autoritaire totalement en Chine, ben c'est à ce moment-là que les églises de maison se sont développées et multipliées sous la persécution. Ensuite, il y a eu un temps, on peut dire, de relative accalmie, et les églises ont continué à prospérer. Et puis, ben, ces derniers temps, le gouvernement chinois resserre à nouveau, on peut dire, les conditions et provoque à nouveau les persécutions. Ici, il y a le témoignage du pasteur Yang Yi, dont on a vu un court extrait dans la vidéo, qui risque 15 ans de prison en Chine pour avoir dérangé l'ordre public. Le pasteur Yang Yi, son épouse Yang Rong et d'autres responsables de leur église de 750 membres s'attendaient à être arrêtés un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé le 9 décembre 2018 à Chengdu, dans la province de Sichuan. Ce dimanche soir, plus d'une centaine de fidèles ont été interpellés à l'église, à leur domicile ou dans la rue. S'ils ont pour la plupart été libérés après avoir été interrogés, Yang Yi et 10 responsables sont restés en détention. Il encourt une peine de 15 ans de prison pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. Quelques semaines avant d'être arrêté, le pasteur Yang Yi a rédigé sa déclaration de désobéissance fidèle. En voici un extrait. La Bible nous dit de respecter les autorités, mais elle ne nous dit pas d'aller à l'encontre de notre conscience ou du message de l'Évangile. L'Église utilise donc des moyens pacifiques pour manifester sa foi et répandre l'Évangile. En tant que pasteur, ma désobéissance fait partie du mandat de l'Évangile. Le grand mandat du Christ exige de nous une grande désobéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde. C'est ce que font en permanence les enfants de Dieu. Ils témoignent d'un autre monde, avec un roi qui est venu, dont le royaume n'était pas de ce monde. Voilà ce qui est ce dont nous faisons partie, en fait. Et je vois ici, donc concernant l'arrestation de Pierre et de Jean, qui a été relaté, ceux qui sont arrivés, donc, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il y a donc trois formes d'autorité qui interviennent pour faire arrêter le témoignage. Le commandant du temple, pourquoi ? Ben parce que ça trouble en quelque sorte l'ordre établi. Et voilà, le fait qu'il y ait tout un rassemblement là qui se produit à la prédication des apôtres, eh bien, est dérangeant pour la société de l'époque. Pourquoi les sacrificateurs arrêtent-ils aussi les apôtres ? Eh bien, parce que les apôtres dérangent aussi l'ordre religieux. Hein ? Qui a donné à Pierre l'ordre de prêcher ? et d'annoncer le salut. Quand l'Église grandit, elle dérange l'ordre religieux, c'est au temple même que ça s'est passé, les événements. Quand on met en avant que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, cela dérange aussi bien le juif qui n'a pas encore compris l'évangile, le musulman, le bouddhiste, l'hindou. L'ordre religieux est interpellé et bousculé par la prédication de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et les Sadducéens, pourquoi sont-ils là aussi pour arrêter les apôtres? Eh bien parce que les apôtres, par la prédication, contredisent le matérialisme, parce que les Sadducéens ne croient pas en la vie après la mort, c'est mis en évidence, hein, ils ne croyaient ni aux anges ni à la résurrection, les Sadducéens. Donc c'était les libéraux de l'époque, les matérialistes de ce temps-là. Hein, et ce sont eux qui s'opposent le plus au message des premiers chrétiens. Pourquoi ? Ben parce que, justement, les apôtres annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Donc ils vont à l'encontre de la pensée rationnelle. Et comme dans notre monde sécularisé, donc, ils croient que seule la vie ici-bas compte. Ce sont des matérialistes juifs, mais voilà, les disciples prêchent la résurrection, la vie après la mort, c'est-à-dire qu'il y a plus que cette vie-ci. Et les Sadducéens ne supportent pas le message des disciples. Donc, on peut être attaqué lorsqu'on présente l'évangile de Jésus-Christ, aussi bien au niveau de l'accusation de troubler l'ordre public, l'accusation de déranger la tradition religieuse, mais aussi d'apporter un message spirituel qui n'est pas compris, reçu, acceptable dans la société matérialiste dans laquelle on vit. Donc il y a plusieurs sources d'opposition possibles lorsque l'on prêche Jésus. Alors, le message là qui avait été donc proposé, hein, je reviens quand même sur les versets 17 à 21 que je vais relire. « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de prier, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Il y a certains moments où voilà, la puissance de la prédication de l'évangile est telle que le peuple quand même est interpellé et saisi. Et pendant un certain temps, on peut dire qu'il est possible de continuer le témoignage parce que les autorités voient quand même que le peuple est avec les disciples de Jésus, mais cela souvent ne dure pas longtemps. Oui, la puissance de la prédication publique a convaincu un grand nombre. Hein, au chapitre 2, versets 37 à 41, nous voyons que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et puis un peu plus loin, donc, nous voyons que, au chapitre 4, verset 4, donc, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc, voilà, il y a des temps comme cela où l'évangile est tellement à l'œuvre et puissant que, on peut dire, les autorités diverses n'ont pas le temps de s'organiser pour arrêter ce mouvement, parce que ça va trop vite et le peuple est trop touché. Mais très vite, elle s'arrange pour mettre un terme à ce développement, à mettre des entraves et des empêchements pour que finalement ce ne soit pas toute la société qui soit gagnée par pourtant ce beau message de la grâce de Dieu. Alors au début, les choses se passent justement par cette puissance qui est à l'œuvre assez calmement, et c'est la paix. Les disciples bénéficient donc d'un état de grâce, hein. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, et puis ils partageaient l'Évangile, ils vivaient tous dans le même lieu. Mais ils n'étaient pas dans un esprit de contestation, on peut dire, de remise en cause de l'ordre établi. C'est pas ça leur problème, en fait. Puisqu'ils étaient même chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils ne sont pas dans un esprit de provocation envers la religion établie, qui bien sûr est la religion de Dieu, hein, qui a toutes les promesses, qui a toutes les représentations de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ à travers le temple, les sacrifices, etc., la loi, tout cela, en fait, c'est pas ça qui est contesté par les apôtres. Et avec les fidèles, ils vont encore au temple. Mais le problème se pose vraiment lorsque le nom de Jésus est proclamé comme étant justement le cœur de cette foi et de ce culte, et à travers la guérison, puisque tout ce qui déclenche cette persécution, c'est la guérison d'un homme. Hein, au nom de Jésus, celui qui est boiteux et qui fait l'aumône à l'entrée du temple, hein, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Donc oui, enfin, j'ai passé, mais je reviens en arrière. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Voilà, c'est ce qui a déclenché la persécution, la guérison d'un homme. C'est-à-dire, en fait, la proclamation de Jésus-Christ vivant et agissant. Et Jésus-Christ qui, finalement, alors en libérant un homme, empêche aussi les Juifs de se confier dans leurs œuvres religieuses. C'est mentionné ici, et c'est vrai, que il dérange l'ordre, on peut dire religieux, parce que c'était une bonne action de faire l'aumône aux pauvres. Et ben voilà quelqu'un à qui on faisait l'aumône, et tout à coup, ben, il n'y a plus à lui faire l'aumône, puisqu'il est guéri par la puissance de Dieu. Et finalement, ça dérange aussi cela. Il est libre. Alors, le Seigneur, donc, non seulement le rend libre, mais il entre dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Alors, ça peut être provoqué un petit scandale, que dans le temple, quelqu'un vienne marcher, sauter, louer Dieu. À ce moment-là, ça a dérangé l'ordre, qui pourtant était, puisque le temple était le lieu de la sainteté, le lieu de la prière, pourtant ça ne dérangeait pas les Juifs de faire beaucoup de bruit lorsqu'ils faisaient leur vente d'animaux au temple. Et Jésus avait dû chasser les marchands du temple parce qu'ils avaient transformé le temple en lieu de trafic au lieu d'en faire un lieu de prière. Alors quand il s'agissait de l'argent, là c'était bon, on pouvait faire on pouvait déranger l'ordre et la paix du temple. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui est heureux et qui loue Dieu parce qu'il vient d'être guéri, là, ça ne marche plus. Il ne faut plus déranger la paix du temple. Ça arrive, ces situations-là, ces contradictions, en fait. Mais voilà, c'est cela qui a provoqué finalement la persécution et toute cette période qui va suivre, en fait. C'est tout simplement la proclamation du nom de Jésus-Christ, vivant, agissant parmi les hommes. Et c'est là que le Seigneur nous attend aussi, que nous sachions continuer à proclamer le nom de Jésus au sein de notre société, que ce soit envers les religieux de notre société, que ce soit envers les profanes. C'est le nom de Jésus qui est la clé, c'est le nom de Jésus qui est le centre, c'est le nom de Jésus qui est le salut, et c'est à cause du nom de Jésus que nous serons persécutés. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, dit le Seigneur. Notre vraie responsabilité, c'est d'être dans une foi personnelle, entière, bien éclairée sur Jésus-Christ, et notre relation avec Dieu fondée sur Jésus-Christ, et pouvoir continuer à en parler, en témoigner autour de nous. Si nous témoignons de Jésus, eh bien nous faisons l'œuvre de Dieu, et eh bien les conséquences, nous verrons bien ce qui se passera si nous serons accusés de perturber l'ordre public, si nous serons accusés de ne pas laisser les personnes à leur libre opinion, etc. Mais ça, c'est notre responsabilité. C'est là que le Seigneur nous attend. Tout simplement proclamer son nom comme étant le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Amen.